Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à intervenir dans un champ que je connais bien, qui est celui de la diversité, et que je connais pas du tout, qui est celui de la bibliothèque. Alors, du coup, ça va... J'ai pas préparé de PowerPoint parce que je suis censé être un grand témoin. Et donc d'avoir, sauf qu'on m'a envoyé quand même un petit employé à un équilibre, c'est-à-dire le prix qui correspond en économie au prix, qui a été abordé, la notion, par Fred Gilner, sur les questions des sous-cultures notamment, et dans ce cadre, proposer une offre adaptée à un public divers. Et donc, face à ça, on a le prisme sociologique qui, lui, vise à réduire l'écart entre une norme culturelle dominante et des normes culturelles d'un public que l'on veut attirer. Ce qui renvoie à la question de la définition de la diversité. Et si on veut reprendre un peu la liste à Prévert, comme il nous a été présenté dans le PowerPoint de Barbara, notamment... on aurait l'âge, la nationalité, je parle des diversités qui ont été évoquées. Hein. L'âge, la nationalité, les convictions politiques, la capacité physique ou mentale, les identités de genre, l'héritage, l'éducation, le revenu, le statut d'immigrant ou de demandeur d'asile, ou l'état matrimonial, l'origine, la race, la religion, l'orientation sexuelle. Ça fait beaucoup de diversité quand même. Et pour autant... la bibliothèque est, si on regarde un peu ce qui nous définit, c'est la bibliothèque, c'est une ressource culturelle implantée sur un territoire donné. Donc, il faut s'adapter à la diversité des populations du territoire et à l'ensemble des populations spécifiques définies par chacun des éléments de la liste, qui renvoie, pour ma part, des modèles culturels. Donc en sociologie de l'habitat, on ne parle pas vraiment de diversité, on parle de modèles culturels. Et pas de culture, mais de modèles culturels. Et donc, je trouverais ça intéressant de reprendre un peu les différents éléments de la diversité à travers l'existence ou non d'un modèle culturel qui renverrait à ces éléments. Alors, reprenons l'âge, par exemple. Donc, on a une évolution des demandes de l'avancée dans le cycle de vie. Donc, quand on est jeune, on n'a pas les mêmes demandes culturelles que quand on est âgé ou que quand on est dans une situation familiale avec des enfants. Donc, la bibliothèque, elle doit s'adapter aux évolutions des demandes au cours du cycle de vie. La nationalité, elle renvoie à un modèle culturel de chaque groupe ethnique, entre guillemets, donc, qui est très développé, par exemple, comme je l'ai dit, dans la sociologie de l'habitat, où, en fait, les pratiques domestiques sont spécifiques à chacun des groupes culturels. Et la question qui se pose, notamment aux architectes, c'est est-ce qu'on doit adapter l'habitat à la spécificité des modèles, de chacun des modèles culturels, ou est-ce qu'on a fait un habitat où... les modèles, les personnes adapteraient le lien selon leur propre modèle culturel. Donc, et en fait, la réponse, c'est que très souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un développement d'une pratique domestique à l'interface de la culture, de la société d'accueil et de la société d'origine. Par exemple, quand on regarde le rapport entre... l'espace domestique intérieur et l'espace domestique extérieur, dans la culture méditerranéenne, l'espace extérieur prolonge très souvent l'espace intérieur. Où vous avez l'image, par exemple, de la personne âgée assise devant la porte de sa maison et qui regarde les gens passer. La porte de sa maison, pour elle, c'est l'intérieur de sa maison, alors que pour d'autres, c'est plutôt l'extérieur. Et c'est aussi les conflits d'espace, notamment lorsqu'on va occuper les plates-bandes d'herbe ou de gazon en bas des immeubles, où d'aucuns diront bah, « je suis chez moi, je suis en bas de chez moi », et d'autres diront bah, « non, tu n'es pas chez toi puisque tu es dans l'espace public, et l'espace public n'est pas à toi ». Alors ensuite, les convictions politiques. Il me semble que les convictions politiques ne renvoient pas spécifiques à un modèle culturel dans l'usage de l'espace. Après, il y a les capacités physiques ou mentales, c'est-à-dire la question du handicap. Et à mon sens, et je suis bien placé pour le savoir, le handicap ne renvoie pas à un modèle culturel. Et la notion de handicap, elle est pourtant très utilisée pour illustrer la fonction d'accueil et de diversité de la bibliothèque. Alors moi, ça m'a renvoyé à un travail d'une sociologue qui s'appelle Rachel Thomas, qui a commencé sa thèse par travailler sur les questions de handicap et qui a terminé sa thèse en évoquant non pas la situation de handicap, mais la question de situation handicapante, qui voulait signifier que tout un chacun, à un moment de sa vie quotidienne, se retrouve dans une situation où elle est dans la même situation qu'une personne handicapée en fauteuil, par exemple. Par exemple, la personne avec une poussette qui se retrouve en haut de la marche, des marches d'escalier d'un métro, elle ne peut pas descendre le métro, les marches d'escalier avec sa poussette, comme un handicapé comme moi ne pourra pas passer et descendre les marches d'escalier de la bibliothèque, du métro, sauf à se retrouver dans la situation du courancier Pintenkin et qui déboule tout à fait. Et puis après, il y a aussi un autre Thomas qui s'appelle, je vais vous dire ça, Hervé Thomas, qui lui a travaillé, c'est intéressé parce qu'il a travaillé sur les sourds, justement, forme des halles. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais avant la canopée, justement, moi, à la lecture de son travail, j'avais gardé l'esprit que, en fait, les sourds, ils se sont retrouvés au Forum des Halles parce que, au Forum des Halles, tout le monde était debout et qu'il y avait une statue qui renvoyait plutôt à la notion de surdité. Et cette statue, elle permettait de s'asseoir, justement, de ne pas rester debout. Et donc, les sourds se retrouvent autour de cette statue et, en fait, là, ça se voit pas trop, mais en fait, les sourds, ça fait beaucoup de bruit. Quand c'est ensemble. Et il y a eu des pétitions des commerçants du Forum des Halles et même des passants pour demander à déplacer la statue, à la mettre ailleurs parce que ça faisait trop de bruit, ça faisait fuir les clients. Donc on a mis, je crois bien, la statue sous un espace de verre qui permettait de passer à soi pour éviter justement qu'il source aussi. S'y retrouve. Mais là, on est bien dans une forme d'anecdote qui renvoie pas à un modèle culturel, qui renvoie à un usage de l'espace public. De même, l'identité de genre, existe-t-il des modèles culturels genrés, je parle de modèle culturel, on est bien d'accord, qui recouvrerait l'ensemble des autres modèles. C'est-à-dire, on peut être une femme syrienne, justement, et on peut être un homme noir et protestant, enfin je ne sais pas, les modèles culturels ne voient pas forcément la couleur de la peau, on voit plutôt à ces situations d'origine et à ces modèles d'origine. Ce qui renvoie peut-être plus à un modèle culturel que vous n'avez pas évoqué, c'est la position sociale, notamment entre les couches populaires et les couches supérieures, qui renvoie à des pratiques très fortes de l'espace public et de l'espace domestique. On sait que, par exemple, le rapport à l'espace domestique des couches populaires n'est pas le même que celui des couches supérieures, notamment dans l'ouverture au voisinage, dans le rapport à la réception, dans l'organisation de la maison. Et là, on a vraiment des modèles culturels avec des nombreux travaux sur cette question qui pourraient renvoyer, là, cette fois-ci aussi, à des questions de diversité. Alors si je continue, la religion, le revenu, la migration, l'origine, l'orientation sexuelle peuvent aussi envoyer à des modèles culturels spécifiques, encore faudrait-il les énoncer. Donc peut-on, d'où une question, peut-on réduire l'écart entre la norme dominante et chacun ses usagers? Alors, je pense que Ça fait que la question sociologique, elle renvoie à la question économique sur une réponse d'offre susceptible de répondre par un équilibre potentiel, point d'interrogation, à une demande diverse. Donc ça renvoie aussi à ce qui a été évoqué sur le rapport entre inclusion, ségrégation, intégration, exclusion, autour de notamment la table ronde sur la canopée et sur la sudité. Alors l'inclusion, ça reste quand même une notion dominante, puisqu'on parle chez certains de la société inclusive, que l'on peut résumer de la manière suivante, trouver une norme adaptée à l'ensemble des diversités, qui s'opposerait versus intégration à l'injonction à se conformer à la norme dominante. Avec la question latente, pour quelle raison ouvrir une bibliothèque à l'ensemble de publics spécifiques ? Qui est la question qui est posée, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ouvrir, hein, pour quelle raison? La seule raison que j'ai trouvée, moi, c'est la transmission des valeurs républicaines, qui est souvent la seule ressource culturelle présente sur un territoire donné, avec l'objectif de transmettre les valeurs républicaines françaises, entre guillemets, à des populations qui ne les auraient pas encore assimilées. Ça veut dire qu'on veut inculquer un modèle dominant à des populations diverses. Et là, je demande de vous poser cette question, parce que je pense qu'à aucun moment vous envisagez votre métier de la sorte. Et c'est quand même une question qui se pose, c'est pourquoi inculquer le modèle dominant et pourquoi pas assimiler le modèle des dominés. Et en Finlande, par exemple, on parle de société parallèle, avec une classification officielle de certains quartiers en ghetto que l'on détruirait, ce qui n'est pas loin, notamment de ce qui se passe en France sur la question des ghettos, entre guillemets, où l'Agence nationale de rénovation urbaine détruit les immeubles que l'on trouve trop symboliques d'une ghettoisation en dispersant les populations sans résoudre le problème des populations elles-mêmes, mais en rendant l'existence de ces populations invisibles dans l'espace, en détruisant leur lieu, et donc en détruisant l'aspect symbolique. Alors, c'est pas exactement ce qui se passe avec les bibliothèques. On en parlait à midi avec vos collègues. Par exemple, il y a l'exemple de la bibliothèque universitaire de la Côte d'Opale, qui a lancé un projet autour des migrants et de la jungle de Calais, donc qui assimile ou qui indexe complètement la spécificité de la population dans le périmètre de l'université pour travailler autour de cette question. Donc, au-delà, peut-on aborder la diversité à travers une conception universelle, qui serait la conception républicaine, et attirer des publics spécifiques vers un lieu de ressources culturelles locales? Le local, je vous le rappelle quand même, est la définition de la diversité, parce que s'il n'y avait pas de diversité, il n'y aurait pas de local, parce que tout serait homogène. Donc vers une population diverse, ou déplacer alors les bibliothèques vers les publics spécifiques, comme on l'a évoqué avec les prisons ou les hôpitaux. Donc cette journée où j'ai appris des tas de choses, et notamment d'ailleurs, j'ai appris que il y avait du langage sourd je croyais que le langage sourd était universel. Je ne savais pas que le langage sourd, par exemple, était différent selon les pays. Anecdote. Donc, cette journée, elle laisse quand même en question la question des antagonies. Des antagonismes entre inclusion et intégration. Est-ce qu'on doit adapter un lieu de culture à des modèles culturels variés en défendant des valeurs républicaines, au risque de s'enfermer dans des valeurs nationales et de s'éloigner des valeurs universelles qui, se surcroît, restent à définir? Donc, il me semble une question forte, laquelle je vous invite à discuter. Et avec une autre question qui me semble quand même une question qui a été absente de vos débats et qui, moi, m'a parcouru, c'est que dans une société où le numérique traverse complètement les pratiques, où on a accès à des ouvrages propres à sa culture via le numérique, quel est le statut de la bibliothèque face à cette diversité? C'est-à-dire, si je suis une mère maghrébine et j'ai besoin d'informations dans ma langue, je peux très bien la trouver dans un ouvrage via le numérique. Et alors, pourquoi passer par la bibliothèque dans ce cas-là? Et donc, comment vous situez-vous par rapport au développement du numérique et quelle est votre spécificité en tant que telle face à ça? Et il me semble que cette question, qui est quand même une question sociétale de fond via l'évolution actuelle des pratiques et des usages, mérite aussi d'être posée. Voilà. Ben, c'est fini, je crois.
Y a peut-être des réactions, des questions.
Nous avions bien conscience, quand nous avons construit cette journée d'études, qu'en une seule journée, on n'arriverait pas à couvrir toutes les facettes, tous les aspects de la diversité. Notre grand témoin vient de débusquer plusieurs points aveugles de nos débats d'aujourd'hui, mais peut-être en avez-vous aperçu d'autres?
Ben moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant d'individus que de diversité. Et que donc, la question de la diversité, elle est indéfinissable, puisqu'elle elle concerne tout un chacun. Et moi, j'étais intervenu, c'est pour ça que je suis venu, qu'on m'a invité aujourd'hui, j'ai été intervenu à Montpellier autour de la question de la mixité. Donc le rapport entre bibliothèque et mixité, qui n'est pas exactement la même question, parce que la question de la mixité, c'était de dire est-ce que ça existe comme notion et qu'est-ce que ça veut dire comme forme de cohabitation dans l'espace. Et on sait que les formes de cohabitation des espaces mixtes sont des formes d'exclusion à terme, les uns des autres. Là, la question qui est posée, c'est celle de la diversité, qui n'est pas la même question. Et la diversité, elle engage quand même... Les expériences des uns et des autres, nos valeurs fondamentales, nos origines. Bon, juif, c'est pas une nationalité, par exemple, c'est une religion. Et il y a des juifs syriens comme il y a des juifs français, et puis il y a des juifs ashkédas comme il y a des juifs séfarades, ils n'ont pas exactement les mêmes cultures. De même que adapter des bibliothèques à l'ensemble des publics spécifiques, c'est un puits sans fond parce que chacun est spécifique. Donc comment choisir une forme de diversité plus qu'une autre? Et comment organiser, pourquoi organiser des recrutements de personnel multilingue, et pourquoi choisir plutôt telle langue plutôt qu'une autre, et pourquoi choisir telle culture plutôt qu'une autre, et comment choisir des cultures qui se cumulent par rapport à nos propres expériences. Donc c'est tout ça pour vous dire que le terme de diversité, il me semble, enfin, c'est des questions que je pose, et vous allez me trouver critique, mais c'est un peu ma fonction. Tout ça pour dire que le terme de diversité ne me semble pas très adapté à la question de la bibliothèque, et que la question de la bibliothèque serait plutôt ouverture, culture. Par exemple, quel rapport entre culture et bibliothèque? À qui s'adresser? Quel rapport? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est et la diversité, si on la rapporte au modèle culturel, ce qui sont vraiment la question culturelle de fond, elle se réduit énormément et elle oblige à cadrer des périmètres plus restreints que ceux que vous avez abordés aujourd'hui.
Moi, parler des âges de la vie, ça me va bien, hein. C'est pas un souci. Hein.
Je vois pas qui parle.
C'est moi. Non, je disais, vous parlez, qui vit sur notre territoire et quels sont ceux et celles qui ne viennent pas encore à la médiathèque, par exemple.
Mais c'est la question que je posais tout à l'heure. Si la question de la diversité, ça envoie à qui vit sur le territoire, les populations diverses du 93 ne sont pas les populations diverses de la BPI. La BPI a la fonction à être une bibliothèque nationale. Et dans le 93, la fonction est une bibliothèque locale. Alors qu'est-ce qui fait que d'un côté on aurait une spécificité qui serait celle propre au 93 et quelle est la spécificité nationale, sinon celle de moyenner la population à celle de la France entière. Et donc ces conditions, les publics spécifiques seraient les minorités de la France entière. Et dans ces conditions, les populations spécifiques du 93 seraient les populations minoritaires du 93, c'est-à-dire celles qui sont minoritaires de la BPU. Donc vous voyez qu'il y a un problème de référence qui se pose. C'est qui est minoritaire, qui est divers. Selon l'endroit où on se trouve, on n'a pas les mêmes endroits de diversité. Donc qu'est-ce qu'on peut... Ah, mais je suis d'accord, mais dans ces conditions, on ne parle pas de diversité.
Un grand merci pour tous ces échanges et je vous propose de ne pas se quitter sans remercier d'abord notre collègue en régie là-bas, grâce à qui la technique a été présente à tout moment, et nos interprètes, Christelle et Célia, nos interprètes de cet après-midi. Un grand merci pour tous ces échanges et n'oubliez pas que nous avons une deuxième journée demain à Lyon qui sera disponible ensuite sur le site de la BPI et de l'INSIB. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel en étant présent aujourd'hui et à très bientôt.